Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau modèle d'approvisionnement qui profite à la fois aux producteurs, aux distributeurs et aux consommateurs avec NoFilter, qui valorise les écarts de tri des producteurs et soutient la transition écologique. Pour cela, j'ai la chance d'accueillir Marin Mullier. Bonjour Marin, tu vas bien ?
Ouais, salut Pauline, ça va super et toi ?
Super aussi, merci. Je suis ravie d'accueillir pour cet épisode. J'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises en introduction. Je pense que l'idéal, ce serait que tu te présentes à la fois toi et puis NoFilter, nous dire voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'on sache tout sur la solution.
Ouais, donc NoFilter, c'est une société que j'ai créée il y a quelques années maintenant, après un séjour passé aux États-Unis où j'avais beaucoup travaillé sur des projets en lien avec les agriculteurs. Je suis rentré en France avec pour projet de monter un business qui soit vraiment dédié aux agriculteurs. Et la grande image en fait, que j'ai gardée, qui date d'il y a quelques années, ce sont toutes ces visites que j'ai faites dans les champs des agriculteurs afin d'essayer de comprendre quelles étaient leurs problématiques, les défis auxquels ils faisaient face, et puis tout simplement essayer de les connaître. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand je suis allé voir toutes ces exploitations, c'était ce qui se passait dans les ateliers de tri. Donc les ateliers de tri, c'est là où, comme son nom l'indique, sont triés les fruits et légumes qui sont récoltés. Et j'ai pu voir des immenses bennes remplies de pommes, de tomates, de carottes. Et naïvement, en fait, j'ai demandé aux producteurs qui m'avaient accueilli chez eux, mais ça correspond à quoi, en fait, ces énormes bennes ? Et ils m'ont parlé de ce qu'est un écart de tri. Un écart de tri, ce sont tous ces fruits et légumes qui sont mis de côté, souvent pour des critères esthétiques qu'on appelle le calibrage et qui sont difficilement vendables à cause justement de ces petites imperfections. Et là, ça a été comme un cri du cœur pour moi, une espèce de truc qui vient des tripes qui m'a fait dire qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour accompagner les agriculteurs dans la valorisation de ces écarts de tri afin d'optimiser la valorisation de leur production. Et c'est vraiment comme ça qu'est né NoFilter, qui est avant tout une marque qui est engagée auprès des agriculteurs afin de les aider, de les soutenir dans l'optimisation de leur production et de mettre en place tout un système autour d'eux qui les accompagne dans la transition écologique et vers une meilleure rémunération et vers tout simplement un meilleur mode de vie pour eux.
Du coup, on va tourner autour de tous ces sujets-là, mais du coup, il y a deux sujets en fait. Toi, il y a à la fois soutenir les agriculteurs donc envers leur transition écologique, mais il y a en plus solutionner ce problème de gaspillage puisque les écarts de tri, enfin les fruits et légumes qui sont triés, ils sont jetés. Ils étaient jetés.
Alors souvent, les agriculteurs qui sont aussi vraiment des entrepreneurs tentent de trouver des solutions pour mieux valoriser ce qu'ils n'arrivent pas à vendre tel quel. Il y a des exemples avec des petits producteurs qui font fabriquer leur jus de pomme avec leurs invendus de pommes, idem pour des producteurs de tomates. Mais en France, n'existe pas une solution qui rassemble toutes les filières autour d'artisans transformateurs et d'une même marque qui permet d'unifier tous ces engagements au travers d'une gamme de produits cohérente et diversifiée. Là où nous, on est très différents, c'est qu'on répond véritablement à ces problématiques-là qui sont identifiées par les agriculteurs mêmes, mais on casse en fait les barrières qui existent entre chacune des filières. Ce qui nous permet du coup de proposer toute une gamme de produits, donc des jus notamment, et on a commencé par là, mais aussi depuis un certain temps, une gamme de compotes, une gamme de citronnades, orangeades, une gamme de soupes, de sauces également sur lesquelles on est en train de travailler. L'idée, c'est grâce à des process artisanaux de transformation, de répondre aux besoins des agriculteurs qui peinent encore aujourd'hui et faute de moyens à valoriser l'intégralité de leur production. Et en cela, on permet effectivement de limiter les pertes alimentaires au champ. Je ne parle pas de gaspillage, parce que le gaspillage touche surtout tout l'aval de la chaîne alimentaire, et notamment les ménages. Nous, on essaye de limiter les pertes et de toujours répondre à la demande des agriculteurs qui ont souvent des difficultés à valoriser cette partie de leur production. On parle en moyenne de 15 à 20% de la production annuelle. Mais par exemple, l'année dernière, les arboriculteurs et les viticulteurs ont énormément souffert d'une grosse période de gel qui a fait que entre 70 et 90% de leur production était affectée par des imperfections à cause du gel. Donc ça te donne un ordre de grandeur et puis surtout une idée de la volatilité des aléas climatiques qui peuvent affecter la production. Et ils se sentent tous un peu démunis face à cela. Et nous, du coup, nos filtres, on est là pour répondre à leurs besoins.
Et alors, justement, ces écarts de tri, tu mentionnes les aléas climatiques. Il y a d'autres raisons qui font que ces produits ne sont pas vendables et que, du coup, ils ne correspondent plus aux normes standards.
Le plus gros facteur s'appelle le calibrage. Donc, en fait, ce sont des normes esthétiques qu'imposent les circuits traditionnels de la distribution aux producteurs afin de certifier la qualité, et je mets entre guillemets ce mot-là, la qualité de ce qu'ils achètent. Le calibrage touche au poids, à la forme, à la couleur également du fruit ou du légume, et dès que celui-ci ne rentre pas dans le cahier des charges qui a été imposé, ça en devient un écart de tri. Et c'est justement à l'agriculteur ensuite de trouver des solutions, parce que ça peut représenter, comme je te le disais, une grosse partie parfois de ce qu'il a récolté.
Oui, parce que ce sont des produits qui sont naturels. Donc la pomme qui a envie de pousser avec une grosse bosse, je sais pas, en haut, ben, effectivement, celle-là, l'agriculteur, il ne peut rien y faire, quoi.
Tout à fait. Et puis, il y a un autre souci, c'est que l'agriculteur, en fait, au moment de la récolte, il voit très bien que certaines pommes, pour prendre cet exemple-là, ne correspondent au cahier des charges. Et du coup, souvent, il ne les ramasse même pas. Donc parfois, les fruits ou les légumes n'arrivent même pas jusqu'à l'atelier de tri. Comme nous, on s'engage avec nos partenaires à trouver les meilleures solutions de valorisation grâce à la transformation pour ces produits-là, on amène aussi l'agriculteur à mieux réfléchir à ce qui peut apporter de la valeur à sa production. Et du coup, on l'amène à récolter davantage de fruits ou de légumes qui, sans nous, pourraient être laissés carrément au champ et ne pourraient même pas avoir accès aux ateliers de tri, qui est déjà la seconde étape.
Mais carrément. Et alors, explique-nous comment c'est fait ensuite. Donc, vous achetez cette production qui, finalement, ne peut pas être vendue dans les circuits traditionnels. Et ensuite, c'est vous qui les transformez dans différents ateliers ?
Tout à fait. Donc, le modèle, en fait, il est plutôt simple. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, les agriculteurs sont regroupés au sein de coopératives qui s'occupent de commercialiser 100% de la production de leurs adhérents. La coopérative, elle, est souvent en relation avec, par exemple, des enseignes de la grande distribution avec qui ils se mettent d'accord sur un certain volume et un certain prix. Mais à cause du calibrage, en fait, et c'est ce que je te disais, sont délaissées une partie non négligeable de la production des agriculteurs qui aujourd'hui peut être jetée dans certains cas. Nous, la façon dont on agit, c'est qu'on tisse des liens avec les coopératives à qui on propose de rentrer au capital de nos filtres. Pourquoi ? Parce qu'on estime que quand on essaye de répondre à de vraies problématiques, il faut également s'intéresser à la réforme d'un système qui existe depuis des dizaines d'années. Et nous, on estime que le plus juste, quand on dit être engagé auprès des agriculteurs, c'est de les intégrer à l'aventure et de leur permettre en fait, d'être actionnaires. Donc aujourd'hui, on regroupe au travers de 5 coopératives françaises majeures plus de 200 agriculteurs en notre capital, ce qui nous permet de ne plus être dans une relation simple client-fournisseur, mais de travailler ensemble et en profondeur sur les meilleures solutions de valorisation à apporter à leur production. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on identifie par filière, donc la filière tomate, la filière pomme, la filière carotte, concombre, etc., quelles solutions sont les plus adaptées à leurs besoins et à ce qu'ils produisent. Et nous, on bénéficie d'un réseau d'artisans transformateurs en France qui sont experts depuis des dizaines d'années dans la transformation de fruits et légumes bruts en produits naturels. Je pense notamment au jus, je pense à la compote, je pense à la soupe, etc. Et grâce à ce lien entre les agriculteurs et les artisans, on transforme tout ce qu'on a racheté aux agriculteurs au juste prix en produits finis. Produits finis qui sont vraiment artisanaux, naturels et qui mettent en avant le côté assez brut et le goût brut du fruit ou du légume. Et ensuite, du coup, notre travail, c'est de réintégrer l'enseigne de la distribution qui achète à la coopérative les fruits et légumes frais, intégrer cette enseigne à notre stratégie de distribution et ainsi vendre une version transformée des fruits ou des légumes frais dont les matières premières sont issues des mêmes fournisseurs. Et c'est ainsi qu'on crée une boucle positive entre à la fois les distributeurs, les coopératives et les agriculteurs, et nous-mêmes.
En l'occurrence, ce sont des produits, donc tu nous rappelleras après quel type de produits vous fabriquez, vous transformez. Ces produits-là, ils sont vendus sous la marque NoFilter. Ils ne sont pas revendus sous le nom du producteur de pommes, parce qu'après, potentiellement, les produits sont mélangés à l'intérieur.
Tout à fait, oui, oui. L'idée, en fait, c'est de pouvoir nous asseoir sur une marque. En fait, aujourd'hui, et comme je te le disais il y a quelques minutes, certains producteurs vont faire leur propre transformation de ce qu'ils ont du mal à vendre en frais. Mais comme nous, on rassemble les filières, on intègre dans nos produits des fruits et des légumes de filières différentes.
Ouais.
Alors, on pourrait se dire qu'on met les agriculteurs eux-mêmes en avant, mais nous, on préfère rassembler des engagements intra-filières autour d'une marque dont la valeur fondamentale est la transparence. Et c'est en cela qu'on s'appelle NoFilter, c'est qu'on communique avec une entière transparence sur l'impact que nous, on apporte aux agriculteurs afin de pouvoir toucher le consommateur final et lui faire comprendre qu'au travers de son acte d'achat, il peut avoir un impact direct et positif sur la rémunération des agriculteurs, le gaspillage alimentaire et tout simplement défendre un modèle beaucoup plus juste où les agriculteurs eux-mêmes sont actionnaires pour avoir un impact positif sur l'ensemble en fait, de la chaîne alimentaire. Et c'est en cela qu'on est un peu unique dans ce qu'on fait parce qu'on prend toutes les problématiques dans leur ensemble et on essaye d'y répondre point par point tout en rendant notre discours ultra simple auprès du consommateur qui va pouvoir nous reconnaître dans les rayons des enseignes de la grande distribution avec un positionnement de marque ultra clair sans basculer dans trop de marques, trop de labels, et ce qui est aussi une des causes qu'on perd aujourd'hui certains consommateurs qui ne savent plus ce qu'ils consomment, ils ne savent plus en quoi il faut consommer telle marque versus une autre. Et nous, on essaye de synthétiser tout ça en rassemblant tous ces acteurs.
Ouais, super. Il y a encore plein de sujets à creuser. D'une part, où est-ce que sont transformés? Dans quels ateliers sont transformés tous ces fruits et légumes? Il y en a un unique, c'est un savoir-faire particulier. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait aussi des artisans qui étaient experts. Du coup, comment vous valorisez tout ça? Est-ce que vous privilégiez les circuits courts? Est-ce que c'est plutôt une question de recette pour mixer des carottes avec des pommes? Comment ça fonctionne, en fait,
transformation? C'est un peu tout à la fois, en fait. On est parti des liens qu'on avait tissés avec les agriculteurs et les coopératives qui, jusqu'à il y a quelques mois, se situait essentiellement dans le Val-de-Loire.
D'accord.
Et du coup, on a identifié un artisan transformateur qui fait ce métier-là depuis plus de 20 ans et qui est expert dans le pressage, donc la transformation des fruits et légumes en jus naturel. Et en fait, c'est à partir de l'implantation locale des agriculteurs avec qui on travaille qu'on a identifié l'artisan avec qui on souhaitait travailler. Ensuite, avec lui, se passent plusieurs choses. Donc, c'est vraiment une collaboration sur le sourcing, la méthode de transformation la plus adaptée, parce qu'il faut savoir qu'on ne presse pas une pomme de la même façon qu'on presse une tomate, par exemple. Les assemblages également, donc quelle variété de pommes se marie le mieux avec une autre, quelle carotte, quelle tomate, comment est-ce qu'on assaisonne le tout, comment est-ce qu'on vient compléter avec d'autres ingrédients annexes pour donner une recette qui a du goût et qui plaira au consommateur. Et ensuite, on transforme tout ça grâce à leur expertise et leur expérience en nos produits finis. Donc, c'est vraiment une collaboration. Le résultat donne effectivement une gamme de produits artisanaux. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la réflexion, c'est tout ce qui s'est passé en amont, et comment on a fabriqué le meilleur produit qui a l'impact le plus positif et le plus concret, on va dire, pour l'agriculteur lui-même. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé. Mais quand on se proclame entreprise au service des agriculteurs, il fallait aussi qu'on aille voir un peu ailleurs. Et du coup, depuis peu, on travaille avec un autre artisan qui, lui, est davantage expert dans tout ce qui est compote, soupe, sauce, etc., qui, lui, est basé dans le sud-ouest, près de Bordeaux, ce qui nous permet, du coup, de toucher d'autres agriculteurs dans d'autres bassins de production. Et c'est ce qui a aussi permis toute la réflexion stratégique de duplication de notre modèle dans d'autres bassins de production en France, mais aussi à l'international, afin de répondre à la demande des agriculteurs locaux un peu partout dans le monde.
Oui, un modèle qui est largement duplicable, du coup. Et pour finir un peu sur cette recette, du coup, vous pouvez mélanger du bio, du pas bio. Voilà, ça peut être... l'objectif principal, c'est de réutiliser 100% du produit. C'est pour ça que vous avez choisi les jus.
Exactement. Alors, le jus était une technique... c'est une solution de valorisation. La technique, elle, c'est le pressage qui est très adapté aux fruits et aux légumes qu'on était capable de sourcer quand on a commencé il y a 2-3 ans. Il a fallu ensuite répondre à la demande d'autres coopératives et surtout des coopératives maraîchères qui ont des productions qui s'expriment très mal en jus. D'où les soupes, d'où les compotes pour valoriser d'autres fruits, etc. Mais tout part en fait de notre volonté de construire un nouveau type de modèle qui rassemble tous les acteurs autour des mêmes engagements, et y compris les distributeurs qui cherchent à rationaliser leur offre de produits, à diminuer le nombre de références. Grâce aux services qu'on apporte, eux aussi sont capables d'apporter davantage d'efficacité à leur modèle et du coup intégrer l'impact et la valorisation des écarts de tri à leur stratégie d'approvisionnement.
Oui, tout à fait. Et en termes de stock, parce que vous achetez donc tout... ces écarts, tu disais tout à l'heure qu'ils pouvaient représenter jusqu'à 20%. J'imagine qu'il y a des périodes dans l'année où il y a plus ou moins de pics, où il peut y avoir aussi des aléas climatiques qui sont plus forts, où vous pouvez retrouver d'un coup avec beaucoup de pommes, voilà, peut-être en septembre, octobre, plus de carottes à d'autres moments, plus de tomates à certains moments. Alors que dans la recette, peut-être que, je ne sais pas, la tomate du mois de juin, elle se marie bien avec une pomme du mois d'octobre, et du coup, elle va peut-être pas attendre du coup, la récolte de pommes. Donc, comment vous mixez en fait les recettes qui dépendent aussi de la production un peu du jour. Et donc, est-ce que vous êtes parfois en rupture de certains éléments? Voilà, comment se constituent les recettes en fonction du stock disponible?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est incapable de valoriser les 20% de nos agriculteurs partenaires.
Ouais.
L'objectif, c'est d'y arriver. Donc, en ce qui concerne les approvisionnements, on a suffisamment travaillé toutes nos filières amont pour aujourd'hui n'être pas encore confrontés à ce problème-là. Après, effectivement, il y a un vrai travail de transformation qui est et qui appartient aux artisans avec qui on travaille, qui est de dire, là, à tel moment, j'ai telle variété de pommes qui est disponible, avec quoi est-ce qu'elle peut se marier ? Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, au travers de nos différents produits, on valorise différentes typologies de fruits ou légumes, et y compris différentes variétés. Par exemple, le jus de tomate qu'on a fabriqué il y a 2 ans, il est radicalement différent de celui qu'on a fabriqué l'année dernière parce qu'on a utilisé d'autres tomates. Mmh. En revanche, nous, ce qui nous importe, c'est de toujours garantir une qualité optimale dans nos produits, peu importe finalement s'il existe de légères variations en texture, en goût, etc. Ça n'est pas forcément important pour nous tant qu'on répond aux besoins des agriculteurs et tant que le produit en lui-même est qualitatif. les consommateurs, finalement, ils ne font pas forcément la différence entre un jus avec telle variété de tomates ou une autre. Tant que c'est bon, ils vont adhérer à l'engagement parce que c'est ce sur quoi on met l'accent dans notre communication.
Et puis, ça aura toujours goût de tomate, quoi.
Ah oui, bah forcément. Et d'ailleurs, c'est un des commentaires qui revient le plus souvent sur notre jus de tomate, notamment. C'est « j'ai vraiment l'impression de boire un jus de tomate fraîche ». Et ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut nous faire. Ouais, et je me suis rendu compte que je n'avais même pas répondu à une des questions que tu m'avais posées sur le bio. Et en fait, ça, c'est important. Comme nous, on s'adresse à une grande majorité des agriculteurs qui sont regroupés dans leur coopérative, effectivement, on travaille avec des producteurs qui sont certifiés bio et plein, en fait, qui ne le sont pas. Je n'avais pas envie, lorsque j'ai créé cette entreprise, de me cantonner à l'agriculture bio parce que je considère qu'il y a différentes typologies d'agriculture qui sont hyper complémentaires et quand on s'engage pour l'agriculture, selon moi, on est obligé de les englober. Nous, notre travail, c'est de trouver les meilleures solutions de valorisation pour celles et ceux qui ont du mal à optimiser leur rentabilité et optimiser la valorisation de leur récolte. Mais quand un producteur de pommes qui est certifié haute valeur environnementale ou un producteur qui a sa certification bio fait appel à nous, je ne fais pas de distinction. Tant qu'ils sont capables de prouver qu'ils sont quand même dans une logique de transition écologique et ça passe par des certifications différentes et complémentaires, on essaye de répondre à leurs besoins. Donc, on n'est pas certifié bio justement parce qu'on souhaite répondre aux besoins de la plupart des agriculteurs en France et demain, je l'espère, un peu partout dans le monde.
D'accord, très clair. Et quand vous vendez à des distributeurs, donc tu me diras après dans quel type de surface, d'enseigne vous êtes distribué, comment ça se passe ? Parce que vous êtes engagé peut-être à vendre alors je ne sais pas si c'est du coup en nombre de jus, en nombre de compotes, etc. Mais potentiellement, au moment T, vous n'avez pas exactement que des jus de pommes, vous avez peut-être du jus de tomate. Est-ce que du coup, comment ça se fait en fait ce rapport entre l'offre disponible et puis les engagements que vous avez pu contracter au travers des distributeurs ?
Alors c'est une très bonne question et c'est ce qui nous distingue aussi de la grande majorité des marques qui par exemple fabriquent des jus ou des compotes, etc., c'est que nous, on vend à la fois une gamme de produits qui répond aux problématiques des distributeurs, mais on vend également un service. C'est-à-dire que les enseignes de la grande distribution ont leur propre filière d'approvisionnement avec certaines coopératives et agriculteurs avec qui on travaille déjà, mais pas que. Quand nous, on propose notre gamme de produits à l'enseigne de la grande distribution, on leur dit, écoutez, vous avez ces problématiques-là qui concernent nos filières, mais elles concernent également toutes vos autres filières. Du coup, co-construisons ensemble, avec nos filters, vous et vos propres filières, le même modèle que ce qu'on vous propose, mais du coup, avec des solutions en transformation et en produits finis qui collent avec les besoins des filières que nous, on ne traite pas déjà. Et du coup, dans le process de référencement, il y a le truc un peu classique où tu parles avec les acheteurs des boissons, mais aussi du snacking ou des produits frais, compotes, etc. Mais on travaille également avec tout leur département RSE pour justement inclure à leur stratégie d'approvisionnement le service clé en main qu'on leur apporte. Mais aussi, et ça c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec l'ancienne Casino avec qui on est en train de travailler pour le référencement de nos produits, aussi intégrer tout un pan de communication. Ça, c'est super important parce que l'enseigne a tout intérêt à communiquer sur l'impact positif qu'elle a sur ses propres filières d'approvisionnement en utilisant nos filters comme exemple. Et ça, ça participe aussi à la mise en avant de nos engagements au travers de notre marque, mais aussi au travers de la communication que va pouvoir faire l'enseigne auprès de leurs consommateurs pour prouver que oui, dans leur rayon, il y a du changement, il y a une prise en compte de l'agriculteur, il y a une prise de conscience sur la façon dont on devrait sourcer nos produits Et c'est aussi pour ça que nous, on touche plus facilement le consommateur final, parce que l'enseigne a aussi un intérêt à nous mettre en avant et à dupliquer ce qu'on fait sur leur propre filière d'approvisionnement.
Ce qui veut dire que tu as une offre qui peut être différenciée en fait, finalement d'un distributeur à l'autre, parce que tu t'intègres vraiment dans leur...
Exactement. Donc, par exemple, avec Auchan, on est en train de travailler sur un projet qui touche à leur filière responsable. Donc, pareil, en fait, ils catégorisent leur filière d'approvisionnement selon un certain nombre de critères sociaux et environnementaux par typologie de fruits ou légumes, la carotte, tomate, pomme, etc. Et du coup, nous, nos produits doivent forcément s'adapter à ces filières-là. Le jus de pomme qu'on vend aujourd'hui chez Carrefour sera différent du jus de pomme qu'on pourra vendre prochainement chez Auchan, par exemple. La recette de compote qu'on pourra proposer à Franprix sera différente potentiellement de la recette de compote qui sera intégrée dans les rayons de Carrefour. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que je ne crois pas forcément en l'homogénéité des produits. La nature, elle n'est pas du tout homogène. D'une récolte à une autre, d'une variété de fruits et légumes à une autre, tu vas avoir des légères, on va dire, différences. Mais tant que le produit est bien fait, tant qu'on s'appuie sur des bons process de transformation et qu'on répond aux besoins des agriculteurs, le consommateur, en fait, il va répondre présent. Il est capable de savoir ce qu'est un bon produit ou un autre. Ça se traduit par quelque chose de très brut. Quand on sent qu'il y a juste du fruit ou du légume, tout de suite, on est réceptif à ça. Mais que ce soit une pomme gala ou une Braeburn ou autre variété de pommes, finalement, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ouais. Et du coup, l'hétérogénéité de nos produits, c'est un vrai argument pour nous. C'est la preuve qu'on respecte le produit, qu'on s'adapte aux besoins des agriculteurs à un instant T. On s'adapte également à la nature. Et quand on est suffisamment flexible pour nous adapter à tous ces enjeux-là, on garantit les bons produits et on garantit surtout l'impact réel auprès des agriculteurs.
Et alors, tu disais que tout à l'heure, vous n'êtes pas en capacité de répondre à l'intégralité des écarts, en fait, de tri, parce que du coup, ça représente quand même un volume qui est vraiment important. Mais quand on y réfléchit, tu te dis qu'il y a quand même des producteurs qui font des jus et pas dans une logique de revalorisation, d'accompagnement des producteurs qui sont juste là pour vendre des jus et qui doivent certainement utiliser des fruits qui rentrent dans des cases de calibrage et autres. Ça paraît presque une aberration aujourd'hui qu'ils soient fabriqués de la sorte alors qu'il y a tous ces écarts de production qui demandent que être revalorisés et transformés.
Oui, bah tout à fait. Et c'est justement en fait là où on vient un peu casser les codes. C'est-à-dire que on s'est très rapidement aperçu que, avec nos échanges, par exemple, avec des coopératives sur la filière tomate, qu'il n'y avait aucune discussion avec les producteurs de pommes. Or, si tu réfléchis en termes de technique la plus adaptée pour valoriser leurs écarts de tri, et ils sont tous confrontés à la même problématique, bah, plutôt que d'agir chacun dans son coin, bah, vaudrait mieux lier et créer de la discussion, créer de la valeur entre ces acteurs-là. Mais sauf qu'ils ont déjà tellement de boulot, ils ont déjà tellement de problématiques que nous, on vient, avec notre regard un peu extérieur, créer des passerelles entre chacune de ces filières pour obtenir une gamme de produits diversifiés, mais aussi afin de créer un sentiment d'appartenance renforcé. C'est aussi pour ça qu'on a proposé aux coopératives de rentrer en notre capital. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour défendre un message d'engagement, c'est que dans la réalité des faits, ça crée aussi davantage de proximité entre les filières qui connaissent les mêmes problématiques de fond, et c'est en ce sens-là que, réunis autour d'une table, on est capable d'y répondre avec beaucoup plus d'efficacité.
Oui, ok, très, très clair. Et en termes de production, de transformation, il y a des légumes qui se prêtent moins au pressage ou en tout cas à la consommation sous forme de jus. Autant on n'a pas trop de mal à imaginer un jus de tomate, un jus de pomme. autant, je sais pas, un petit radis, ou un petit navet, ça m'inspire un peu moins, tu vois.
On n'a pas fait de test sur le radis parce qu'on est parti du principe que ça ne marcherait
ça
pas.
Ça pique. Et non, du coup, il y en a où tu parlais tout à l'heure de soupe, notamment, vous êtes obligé d'un peu diversifier l'offre pour ces raisons-là.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle on ne se définit pas du tout comme une marque de jus. Alors oui, on a commencé par ça parce qu'il fallait bien commencer par une technique et c'était la plus appropriée pour le sourcing qu'on avait à notre disposition lorsqu'on s'est lancé. Mais notre motivation, elle est de répondre aux besoins des agriculteurs. Récemment, on a été contacté par une coopérative en Corse qui avait entendu parler de nous et qui nous a proposé un stock de citron, orange, clémentine, etc. Bah, nous, en fait, on n'avait pas la capacité de les presser. Et c'est la raison pour laquelle on a identifié un autre artisan qui, lui, avait l'outil nécessaire pour transformer ses agrumes. D'où toute une gamme qui va bientôt voir le jour de citronnade, orangeade. Mais en fait, tu vois très bien le cheminement de pensée et la façon dont on agit. C'est
Vous partez de la production, en fait, ouais, de la problématique, de l'urgence, voilà, de la matière à traiter, et vous en trouvez ensuite des applications, que ce soit un jus, une soupe ou autre.
Exactement.
Parce que vous les valorisez comme vous pouvez. Quoi. Ouais.
Et c'est exactement ça, et en cela, on est ultra différenciant, dans le sens où on ne se dit pas un matin « Ah, mais ce serait trop cool de faire… »
Oui, une nouvelle gamme, quoi, c'est pas une toute idée, quoi. Ouais.
Non, ouais. C'est les besoins que les agriculteurs nous communiquent, qui génère notre stratégie de produit, parce que nous, notre but ultime, c'est de répondre à leurs problématiques. Du coup, la gamme de soupe qu'on est en train de créer, elle est partie du besoin identifié par des producteurs qui avaient une production et surtout des légumes qui ne fonctionnent pas du tout en jus.
Genre le navet, quoi.
Exactement. Exactement. Et tu vois, on a tissé des liens très, très forts avec une coopérative qui s'appelle Cultive, qui est certifiée Demain la Terre, qui fait des choses très, très bien, qui produit à la fois des tomates, des concombres, qu'on a accompagné notamment pendant le premier confinement, parce que c'était la récolte des concombres, et comme les marchés fermaient, ils avaient énormément de mal à valoriser leur récolte de concombres et on a créé une recette de jus avec de la pomme et du concombre. Mmh. Mais ils produisent aussi plein d'autres légumes et notamment tous les légumes du pot-au-feu. Donc aubergines, par exemple. Et en fait, ça nous a donné l'idée de créer des soupes et aussi des gazpachos. Ils font pas mal de poivrons également. Tu vois, donc cette relation créée avec Cultive et cette proximité qui est généré par une relation qui n'est pas du tout celle d'un client versus un fournisseur classique, elle définit aussi nos choix stratégiques dans la diversification de notre gamme pour sortir du jus et ainsi défendre aussi ce message global de soutien à l'agriculture. C'est super important.
Et en termes de projets, tu disais qu'il y a des nouvelles, des nouveaux types d'applications qui sortent, et en ça je parle, enfin de transformation, donc je parle effectivement de soupe, jus, etc. Vous envisagez aussi d'autres manières de transformer ces fruits et légumes que ceux qui sont faits aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors le grand projet qu'on a, c'est de travailler sur la déshydratation. Ça répond un peu à une des questions que tu avais posées, qui est comment est-ce qu'on s'adapte à la demande des agriculteurs et comment est-ce qu'on répond à un instant T grâce à la transformation pour au mieux les aider dans la valorisation de leur production. Ça signifie que nos produits doivent avoir une durée de vie quand même relativement longue. Si on travaillait le frais, en fait, on ne pourrait pas répondre à la demande des agriculteurs et on n'aurait pas suffisamment de temps pour vendre l'ensemble des produits transformés qu'on est capable de créer avec eux. Et du coup, la déshydratation et du coup le séchage est une technique qui est super intéressante parce que tu permets de limiter les pertes alimentaires au travers de produits qui durent dans le temps. Et on travaille sur une technique de séchage qui nous permettrait de conserver l'intégralité des propriétés du fruit ou du légume frais. Et du coup, on est en train de travailler avec des chercheurs du CNRS sur des techniques de séchage différentes selon la typologie de végétal qu'on pourrait valoriser afin d'avoir toute une gamme de bouillons, de fruits séchés, de légumes séchés qui auraient les mêmes propriétés lorsque tu les consommerais que le fruit ou le légume brut. Et ça, c'est un projet, je pense, qui va mettre au moins 2 ans avant d'être développé, mais on s'y prépare dès aujourd'hui parce que je considère que c'est une des techniques les plus intéressantes pour respecter tous les engagements qu'on tient auprès des agriculteurs et toujours aussi avec cette idée de donner l'accès au consommateur final à des produits d'une grande qualité.
Oui, et puis de répondre effectivement à cette demande, à cet afflux de demande, en espérant quand même qu'il y ait aussi plus de souplesse concernant le calibrage. Aujourd'hui, il y avait quand même, alors c'est pas forcément un mouvement planétaire, mais les fruits, légumes moches qui commencent à rentrer un petit peu plus dans les rayons des supermarchés, en espérant que d'un côté, bah, vous ayez davantage de solutions pour valoriser tous ces écarts de tri, et que de l'autre côté, cet écart de tri puisse être réduit de par les critères de sélection eux-mêmes, non ?
Exactement. Et c'est toute la stratégie en fait qu'on mène avec la grande distribution, parce que comme je te l'ai en fait déjà dit, ça va bien au-delà également avec la grande distribution d'un simple partenariat sur un référencement de produits. L'idée qu'on a, ce serait presque d'inclure contractuellement à la stratégie d'approvisionnement de l'enseigne de la distribution la valorisation des écarts de tri et des coproduits des agriculteurs dont elle est en partie responsable au travers d'une gamme de produits transformés dont nous on gérerait. Et du coup, ce n'est pas forcément changer le cahier des charges sur les normes esthétiques liées à l'achat des fruits et légumes, mais ce serait tout simplement de dire, bah, si nous, on ne peut pas le vendre tel quel, ou si nous, on ne peut pas l'acheter tel quel, ce fruit ou légume, intégrons à nos produits et à notre stratégie une solution qui nous permet d'aussi valoriser ce fruit et légume-là afin d'aider l'agriculteur à mieux valoriser sa production. Nous, on n'est pas forcément dans le fait de absolument vendre le fruit ou légume en frais, mais c'est surtout de trouver les solutions via la transformation pour répondre à la problématique de l'agriculteur et du coup, par voie de conséquence, à la problématique de l'enseigne qui cherche à réduire son nombre de références, le nombre de produits, de se concentrer sur peut-être quelque chose de plus qualitatif, qui valorise mieux sa filière d'approvisionnement et qui répond à la demande des consommateurs.
Très clair. Et petit aparté, mais sur la déshydratation, autant les fruits secs, ça me parle, autant un légume séché. Du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir le remanger comme ça, tel quel, ou de pouvoir, en gros, le réhydrater et le remanger un peu plus tard. Et c'est juste une technique de conservation.
Alors, tu pourrais faire les deux. Donc, soit tu sèches ton légume et tu le réhydrates avec de l'eau. Soit, et je te donne un exemple très concret, tu peux également en faire des chips. Tu coupes ton aubergine, tu la sèches selon le process qu'on aura identifié le plus adapté à l'aubergine et tu en fais des chips, par exemple. Mais il y a d'autres solutions.
Ça serait juste terrible de pouvoir les faire chez soi, en fait, parce qu'il y a un problème aussi après de non-utilisation des produits dans son frigo. Et du coup, ces techniques-là, si elles pouvaient être dupliquées sur le grand public, ce serait juste génial de pour limiter ce...
C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a, au travers de notre démarche, quelque chose qui touche à la sensibilisation. À fait. C'est aussi faire comprendre aux consommateurs qu'il est finalement assez facile, au travers de ces choix de consommation, d'avoir son petit impact. Alors, on n'est jamais parfait et on a tous nos défauts, on a tous nos failles, mais avec la puissance de l'information et de la sensibilisation, je crois vraiment aux petites actions en fait, qui amènent les gens à se diriger vers quelque chose de plus responsable. Je pense que le responsable n'est pas forcément chiant. Souvent,
ouais. Partage complètement.
Non, mais c'est vrai. Je veux dire, et puis on n'est pas là pour pointer du doigt, on n'est pas là pour avoir des discours un peu moralisateurs. Au contraire, je pense que si tu amènes les gens à s'informer sur l'impact qu'ont tel ou tel choix d'achat ou de choix de consommation, tu les amènes aussi à réfléchir à leur façon de se comporter, à réfléchir à leur environnement. et ainsi permettre à tous ces gens-là de tirer un peu plus dans le même sens pour préserver en fait nos écosystèmes. C'est quelque chose de très global, mais tu vois, les petites actions de chacun, je pense, si tu les additionnes, ont une vraie importance, et c'est non négligeable de le dire, parce que souvent on se dit, bon bah, de toute façon, moi si je fais ça ou ça, finalement ça change pas grand chose. Et puis du coup, ça amène certaines personnes à ne pas le faire, parce que plutôt que de faire petit, elles vont pas faire parce qu'elles vont se dire que ça a pas d'importance. Moi je suis aussi là au travers de l'entrepreneuriat, au travers de cette marque qui tend à changer nos habitudes de consommation. Je suis aussi là pour dire que en fait, chaque petit acte compte et il ne faut pas avoir peur de faire des choses, même petites.
Mais top, carrément. Et en quoi c'était si important pour toi que les agriculteurs prennent part au capital ?
Je pense que c'est tout simplement ma façon de voir le business. Okay. En fait, je me suis lancé là-dedans après... comme je te le disais, une expérience de 3 ans aux États-Unis où j'ai travaillé pendant assez longtemps dans une entreprise en fait, qui est très engagée auprès des agriculteurs. Et c'est là-bas où j'ai un peu ouvert les yeux sur le type de business model que tu peux créer et qui soit véritablement engagé pour les agriculteurs. Et une des façons que j'ai de voir le business, c'est pas simplement... des achats de matières premières, de la prestation de services pour de la transformation, de la vente d'un produit fini, tu mesures ton impact. Non, pour moi, si tu veux vraiment changer les choses, il faut revoir la façon dont on conçoit un business rentable et à impact. Et c'est venu tout naturellement, c'est-à-dire que les coopératives avec qui on travaillait déjà, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les rendrait pas également actionnaires de l'entreprise ? Ça me semble logique et naturel en fait que de leur proposer ça, parce que quand ton idée de base est de t'engager ou de trouver un modèle économique qui fonctionne et qui répond à une cause dans laquelle tu crois ou qui répond aux problématiques de personnes pour lesquelles tu as envie de t'engager, et ben faut y aller jusqu'au bout. Je ne crois pas en la demi-mesure, je crois en l'entrepreneuriat qui prend des risques et qui cherche à casser les codes. Et quand on va voir les agriculteurs et qu'on leur dit « on vous propose de rentrer au capital, vous deviendrez actionnaire de notre entreprise, on va travailler sur long terme, sur un ensemble de solutions pour répondre à vos problématiques », et ben, ces coopératives-là et les agriculteurs sont ravis. Ils ont trop souvent été mis de côté, ils ont trop souvent été pointés du doigt pour des mauvaises pratiques que souvent ils ont dû subir pour répondre à la demande des circuits traditionnels de la distribution. Quand on inverse en fait le regard qu'on peut porter sur eux, quand on les inclut à la discussion, quand on se bouge pour eux et que ça se traduit par des actes concrets, bah ça change tout. Et la façon dont les agriculteurs avec qui on travaille engagent la discussion avec nous, propose des choses, et ben c'est là où on se rend compte qu'on est dans quelque chose de vrai, et ça passe par des choix forts, et notamment le fait de les rendre actionnaires. C'est ma vision d'un modèle plus juste, et c'est pour ça qu'on a choisi cette direction-là.
Ok, super. Et quel est ton plus gros challenge au quotidien ?
J'en ai beaucoup. Le plus gros challenge, je dirais... je pense que c'est un peu la conséquence de ce modèle que je défends, c'est que je me sens responsable. Je ne suis pas dans l'entrepreneuriat pour défendre uniquement mon entreprise ou une certaine vision que j'ai de l'agriculture. Je défends une vision pour les agriculteurs. Et quand je vais voir Auchan, quand je vais voir Carrefour, ou même quand je vais voir des potentiels investisseurs, il y a une partie de moi qui sans cesse me rappelle que ce n'est pas que moi, c'est tous les gens qui ont fait le choix de me suivre dans cette aventure, donc l'ensemble de mes associés, l'ensemble des employés et aussi l'ensemble des agriculteurs. Et il y a du coup cette responsabilité-là qui est un vrai challenge parce que du coup, on ne répond pas uniquement aux besoins du business ou d'un besoin perso de réalisation de soi au travers de l'entrepreneuriat. On répond à quelque chose de beaucoup plus global qui moi, m'anime énormément, mais qui, du coup, est challenging parce qu'il y a effectivement une forme de responsabilité et j'essaye d'être à la hauteur tous les jours.
Super. Quels sont les différents projets pour nos filters au-delà des différents types de transformations dont on a parlé tout à l'heure?
Alors, les projets actuellement sont surtout en lien avec la distribution. Mm-hmm. Donc, on a été super contents en début de cette année parce qu'on a validé le référencement de nos produits dans tous les magasins de proximité du groupe Franprix. Donc ça, ça a été un gros cap de franchi parce que ça met énormément de temps et on a été super contents de ça. L'objectif, c'est de dupliquer ce qu'on a avec Carrefour et du coup Franprix avec Auchan et Casino qui sont les deux enseignes avec qui on discute actuellement pour être disponible partout en France et du coup travailler déjà sur la structuration d'un développement à l'international. On a déjà été contacté par certaines coopératives en Russie, par exemple, qui ont vu nos installations et qui souhaitent faire ça dans leur propre bassin de production. Tout ça en nous appuyant sur les réseaux de distribution des filiales à l'international des enseignes avec qui on travaille en France. Donc, il y a vraiment ce gros pan de distribution qui est super important. La diversification des produits avec toutes les gammes dont je t'ai parlé qui verront le jour dans plusieurs mois. Et puis aussi continuer cette notion d'impact, augmenter le nombre de coopératives au capital pour toucher des nouvelles filières, des nouvelles solutions de transformation et ainsi renforcer l'écosystème qu'on a créé jusqu'à présent qui est un peu sans limite. C'est-à-dire que tant que tu trouves quelque chose de cohérent pour répondre aux besoins des producteurs, on l'examinera et on décidera si ça vaut le coup. Mais du coup, c'est passionnant et ça a du sens parce que tout est construit autour de solutions concrètes qu'on peut apporter à l'agriculture.
Et quelle est ta vision à toi, justement, d'un monde meilleur, finalement?
Je pense qu'un monde meilleur, pour moi, c'est surtout un monde plus juste. Un monde où il y a moins de cloisonnement, moins de murs construits entre des catégories socio-professionnelles, les catégories sociales. Un monde meilleur, pour moi, c'est un monde où il y a plus d'échanges. Tu vois, je te parle j'ai souvent utilisé le terme de casser les codes ou de casser des barrières en réunissant les filières agricoles. C'est un des exemples qui coïncide avec une vision que j'ai pour la société. Je trouve qu'il y a trop de fractures entre des groupes de personnes. Il y a trop d'extrêmes et je pense qu'en liant les gens, en les fédérant, en les rassemblant, forcément tu instaures un discours qui est beaucoup plus positif. Alors je ne dis pas que c'est facile, ça comporte énormément de contraintes, mais c'est justement grâce à ce lien qu'on crée, qu'on ajoute de la valeur à nos activités et qu'on amène les gens à se rendre compte que finalement, on n'est pas si différent que ça.
Ok, top. Et quelles sont à toi tes sources d'inspiration sur ces sujets-là? Bon, t'as vu, c'est ton voyage aux États-Unis qui t'a donné l'envie de créer cette nouvelle filière finalement en France. Mais comment tu t'inspires au quotidien sur tous ces sujets
Alors, je fais souvent confiance à mon intuition. Ouais. Je suis quelqu'un qui fait souvent confiance à ses tripes. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes très inspirantes aux États-Unis. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Emmanuel Faber, qui est un ami proche de notre famille et qui m'a accompagné depuis mes débuts dans la réflexion sur comment construire un modèle qui soit beaucoup plus juste envers les agriculteurs. Et à titre perso, je m'inspire beaucoup aussi de ce qu'a réalisé mon papa dans sa propre vie, qui, après 15 ans passés à travailler en banque à Londres chez JP Morgan, a décidé de tout plaquer du jour au lendemain et racheter des vignobles dans le Médoc. Donc je pense que ça vient aussi de là, ce lien que j'ai avec la terre, avec une famille qui a toujours été dans l'agriculture du côté de mon papa. Ce sont des petites graines, je pense, qui ont été plantées quand j'étais tout petit, que j'ai mises de côté pendant un long moment et que je retrouve graduellement grâce à cette expérience entrepreneuriale que je trouve tellement fascinante, tellement passionnante que ça vaut le coup de se lever tous les jours.
Ok, top. Et tes gestes green à toi du quotidien, est-ce que voilà, il y a des démarches, des initiatives que tu as mis en place depuis soit tout petit, soit des pratiques, des bonnes pratiques que tu as pu faire évoluer au fur et à mesure ton engagement au travers de nos filters en réalisant qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire et que toi, ton niveau au quotidien, tu pouvais encore aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager déjà tout simplement ?
Moi, je suis un fervent défenseur de l'accès à l'information. Mon plus grand conseil, et c'est ce que je fais de plus en plus depuis le début de cette aventure, c'est de m'intéresser aux choses. Je vais te donner un exemple très concret, mais avant, tu vois, je ne regardais absolument pas la composition, par exemple, des produits que j'achetais ou d'où venaient les ingrédients, comment ça a été fabriqué. Et c'est quelque chose qui est devenu un réflexe chez moi, de comprendre comment les choses sont faites. Et à partir du moment où tu comprends comment elles sont faites, tu es capable de faire des choix qui sont beaucoup plus en accord avec ce en quoi tu crois ou qui, du moins, pourront avoir un impact un peu moins négatif, voire un impact positif sur le monde dans lequel tu évolues. Donc, le conseil que je donne tout le temps, c'est intéresse-toi aux choses, creuse quand ça t'intéresse. Tu verras, c'est pas si compliqué que ça que de changer quelques petites habitudes et d'aller vers quelque chose de mieux pour les personnes qui t'entourent et ton environnement. Ça, c'est vraiment mon conseil numéro un. Après, si tu veux entrer dans quelque chose de plus pratique, mais la grosse partie du gaspillage, notamment, elle se fait chez les ménages, souvent sur les produits frais. Il y a tout le sujet des dates limites de consommation qui est super important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit avec une DDM dépassée, c'est pas parce que la date limite est dépassée que le produit est mauvais. Donc, utilise tes sens et fais-toi confiance aussi, c'est-à-dire sans le produit.
La fourrie sans, quoi. Ouais, voilà.
Ouais. Non, mais c'est tout bête, mais tu vois, c'est on est capable de savoir. Donc, tu éviteras de gaspiller des produits en utilisant tes propres sens. Puis ensuite, après, tu peux transformer ce qui est un peu plus mûr, qui arrive en fin de vie, faisant une soupe, si tu veux, ce sera tout aussi bon. Hein.
Carrément, le banana bread avec la banane.
Ah, bah ça.
Un peu mûr, bon. ça passe toujours très très bien, quoi.
Mais tu vois, c'est que des petites choses. Et ça passe par l'information et la prise de conscience de son environnement.
Tout à fait, puis ça rejoint ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur la sensibilisation aussi, l'accès à l'information, à l'éducation et à tous ces éléments de compréhension tout simplement, quoi. Super, bah merci pour toute cette présentation. Je crois qu'il est temps qu'on passe à notre petit quiz final. Est-ce que tu es prêt ?
Ouais, je suis prêt, j'ai la main qui tremble de stress là.
Allez, est-ce que pour voyager, tu es plutôt Air France ou Blablacar ?
Plutôt Blablacar parce que je prends très rarement l'avion.
Ok. Pour te rendre au boulot, t'es plutôt vélo, voiture, ou à vrai dire peut-être transport en commun ?
Transport en commun.
À fond, ok. Si tu n'as rien dans ton frigo, tu es plutôt McDo ou Togo ou Félix ?
Ah, ça dépend de mon humeur. Je vais dire 50-50. Parfois, j'ai une envie de McDo.
Le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday, en parlant de McDo, tu vois ?
Ah non, le lundi, je suis plus sur quelque chose de healthy, donc je vais répondre légumes.
Ok, légumes hors normes peut-être, alors dans ce cas-là, légumes moches. très bien. Et avant de t'endormir le soir, t'es plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
Ah bah en ce moment, très bouquin, très très bouquin. Ouais. J'ai repris la lecture de tous les Harry Potter en anglais, donc je suis en plein dans le numéro 4. et je passe un très bon moment.
Ok, c'est sympa de voir la déconnexion en fait. Et que tu n'y as rien à voir avec la transition écologique ou je ne sais quoi.
Bah, tu sais, faut couper.
Et moi, tu déconnectes quoi. Ouais, carrément.
Faut couper parfois.
Bon, ben génial. Ben écoute, mille merci, Marin, d'avoir donné ton temps pour nous présenter ton super projet et surtout tous les engagements que tu véhicules autour de ça. Parce que, comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, tu n'es pas une marque de jus. Enfin, NoFilter n'est pas une marque de jus. Et du coup, la démarche, elle est vraiment globale, consommateur, distributeur, producteur. Et ben, bravo pour tous ces engagements. Et puis, je souhaite que tous les projets du moment se concrétisent. Et voilà, je penserai à toi quand je verrai des petits navets dans les rayons.
Bah, en tout cas, merci à toi, Pauline. J'ai passé un super moment.
Et ben, plaisir partagé. Merci beaucoup, Marin. À très bientôt.
Ouais, salut.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.